Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur RNG 93.9 FM. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Je suis bien évidemment en compagnie de mon ami et collègue Swill. Salut Swill.
Salut à tous.
Voilà. Et donc pour aujourd'hui, pour cet épisode vraiment spécial, pas Let's un go. Peu spécial, on va parler de Survival Horror. Pourquoi ça ? Parce que donc c'est le 30e épisode de RNG.
Joyeux 30 épisodes.
Let's go. Et c'est un peu notre anniversaire. Ça fait 3 ans que l'émission existe. Voilà, qu'on est sur Spotify, Apple Podcast, qu'on est diffusé du coup un samedi par mois. Et on s'est dit, quoi de mieux pour finir cette troisième année que de parler en fait, de faire un retour aux sources, de revenir au premier sujet qu'on a abordé, parce que c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Et la question qu'on s'était posée,
la question qu'on peut se poser, c'est que Dead Space 1 a été un succès critique.
Un succès critique,
et
ça, oui.
EA, Electronic Arts a laissé savoir qu'ils étaient satisfaits des ventes qu'a fait le jeu. Resident Evil 4, Capcom a laissé savoir que également ils ont été satisfaits des ventes. On espère que Alan Wake 2 va avoir aussi de bonnes ventes, que le remake de Silent Hill 2 va aussi avoir de bonnes ventes, parce que on se dit, si c'est un test de l'industrie, est-ce que derrière ça pourrait laisser présager un nouvel âge d'or ?
Oui, c'est ça, exactement.
Est-ce que du coup l'industrie va se relancer dans ses propositions de Survival Horror ? J'ai envie de dire, j'espère bien.
Et donc, en effet, Swill du passé, est-ce qu'on n'est pas dans le nouvel âge d'or du jeu d'horreur ? Là, actuellement, donc en 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et je vais laisser le Swill du présent,
Swill du présent,
répondre à cette question. Est-ce qu'on ne serait pas dans un nouvel âge d'or du jeu d'horreur ?
Fuck it, direct dans la face, oui, on y est.
Merci d'avoir écouté RNG sur Radio Campus Paris 80.9 FM.
Jingle ! Non. Plus sérieusement, oui, genre, pour moi, on y est, mais en 3 ans, je me pose déjà la question de est-ce que c'est pas déjà fini ? Genre, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué de se situer un peu dans comment va un genre. Ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que c'est un genre qui se porte bien. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on en a fait un premier épisode, c'est que nous, on voulait que ce soit quelque chose de positif, mais qui explique pas mal de choses sur l'industrie, ce genre de choses. Il y avait un rapport historique au genre. Et la question, c'était de savoir comment allait se porter le genre du survival. Et maintenant, le but de cet épisode, c'est d'essayer de se situer, mais essayer, encore une fois, comme on l'a fait dans le premier épisode, essayer de se projeter encore dans le futur avec comment va se porter le genre dans les années à venir, dans les 3-4 ans. Et avec ça, c'est-à-dire revenir sur des questions d'industrie du jeu vidéo moderne, ce genre de choses. Encore une fois, par quoi on commence ? Depuis 2022 maintenant, 2023.
Ouais, c'est ça. Je veux dire, on peut déjà faire un petit récap, juste des bases qu'on avait évoquées.
Le survival horror, rapidement, genre né à la fin des années 90, qui nous vient tout droit du Japon, grâce à Resident Evil, tout simplement. Voilà, on accélère très vite.
Exactement. Alone in the Dark et tout.
Rule of Rose, toutes ces choses-là.
Et le principe, la base du style de jeu que c'est de faire peur. Vraiment, c'est ça. De limiter le joueur, on l'avait dit. Je pense que la plus grande dynamique du survival horror, c'est de composer avec la peur de manette en main ou clavier souris, de se dire on est prisonnier d'un gameplay. On n'est pas là à virevolter dans tous les sens et tout. C'est pas du CSGO ou je sais pas quoi. Et en même temps, du coup, il y a une question d'IA, d'obstacles. En fait, c'est vraiment toujours une question de contrainte. C'est une question de comment on est contraint par l'espace, par la vision. On avait parlé de Resident Evil 1 avec ses angles de caméra très fixes. Et donc, globalement, c'était vraiment ça. On avait fait un peu une espèce de cheminement jusqu'à Dead Space, la modernisation avec une caméra plus libre, du RE4, la phase où le genre a été en perdition, puis est remonté avec YouTube,
marché indépendant et tout. Voilà. Marché indépendant aussi.
Exactement. Et du coup, voilà, donc ça c'était en 2022. Voilà, on avait fait nos petites recommandations et tout. Et à l'époque, je me souviens qu'on était dans l'attente du coup du remake de Silent Hill.
De Silent Hill 2, oui, ouais. Et de Alan Wake 2.
Et aussi. De Alan Wake 2. C'était ouais. vraiment ce truc-là où on voyait beaucoup de suites de jeux un peu cultes. Et on se disait, ah, est-ce que justement c'est pas un peu une forme de test de l'industrie pour voir si ces jeux-là vont marcher, vont encore attirer le public et tout. Et je pense que ça peut être bien du coup de. Peut-être de s'attarder déjà sur quels sont les titres qui sont sortis justement dans cette, entre la période donc 2022 et actuellement, et qu'est-ce qu'on en a pensé, notamment par exemple Silent Hill 2, le remake.
Du coup, le Silent Hill 2, le remake, ce qui est sûr, c'est que déjà ça a été une réussite. Avant de parler d'un avis critique personnel, c'est un jeu qui a super bien marché de la part de Konami et de la Bloober Team aussi, bravo à eux, parce que c'est un jeu qui a vendu près de 6 millions d'exemplaires, c'est les chiffres de Konami. Et on a eu aussi le droit à Silent Hill F aussi, qui a très 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 bien marché, près de 2 millions de ventes pour un nouvel opus Silent Hill. Donc c'est signe d'un genre qui va bien, parce que faut savoir que le survival horror, ça reste quand même un genre qui est assez niche, mais grâce à ces licences, voilà, Silent Hill, Resident Evil, qui ont quand même une certaine popularité au-delà du genre, ils arrivent quand même à driver certaines ventes et donc atteindre ce genre de chiffres. Et vraiment, voilà, le remake de Silent Hill 2, moi personnellement, c'est mon chouchou. Genre, sincèrement, je sais, voilà, j'ai fait RE9, j'ai pas fait Alan Wake 2, c'est vraiment un jeu que je dois faire, je dois prendre le temps de faire. Mais sincèrement, Silent Hill 2 remake est un meilleur hommage, je trouve, qu'est le remake de Resident Evil 4. Un hommage au genre, bien sûr, je parle. Je trouve que la capacité de la Bloober Team à vraiment remettre en avant l'identité du genre dans ce titre, et aussi vraiment la moderniser vraiment sauce Unreal Engine 5, vraiment, avec ses qualités et ses défauts, je trouve sincèrement que c'est une réussite totale. Et pour essayer de build up sur la santé du genre, je trouve que, pour déjà parler, voilà, et pourquoi pas essayer de répondre à la question de est-ce qu'on est sur un âge d'or. Je trouve que la force des jeux là récemment, et ce qui fait qu'on est dans un âge d'or, c'est que c'est un genre qui retrouve son identité, qui retrouve une identité, et qui arrive quand même à avoir une forme aussi d'autonomie, c'est-à-dire avoir une identité qui est propre, qui n'est pas juste on va recopier ce que faisait le genre au début des années 2000. Non, non, c'est vraiment, il y a une esthétique propre au survival horror post-2020, post-2019. Et je trouve que le remake de Silent Hill 2 le représente très bien, parce que quand on parle aujourd'hui de Silent Hill 2, même de Silent Hill 3, le premier aussi Silent Hill, on parle beaucoup d'esthétique et comment aussi ces jeux-là ont réussi à avoir une image assez forte qui définit tout de suite, voilà, cette époque du jeu vidéo fin 90, début 2000, avec voilà, cette brume iconique, cette lenteur dans les mouvements. Dans les contrôles, voilà, cette caméra fixe, et bien tous ces éléments-là qui sont à la base, j'ai pas envie de dire des défauts, mais qui étaient des limitations techniques. S'il y avait des caméras fixes, c'est parce qu'on pouvait pas avoir une caméra libre dans ce genre d'environnement 3D, parce que c'était des éléments de visuels qui étaient pré-rendus. Et ces défauts-là, en fait, techniques, faisaient maintenant aujourd'hui l'identité de ce. On fait l'identité de tous ces jeux-là, en fait. Et aujourd'hui, les défauts qu'on peut donner à Silent Hill 2 Remake, voire même aussi Resident Evil 4, certains, on va dire, défauts visuels, je trouve, c'est ça qui souffle la nouvelle identité du genre. Ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, voilà, de Unreal Engine 5 slop, eh ben, je trouve, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Ulysse, qui peut paraître assez paradoxal, c'est en fait ce côté un peu uncanny de l'Unreal Engine 5, ce côté un peu hyper lisse, je trouve que ça donne vraiment une identité à ce Silent Hill 2 qui, dans cette horreur psychologique, ce côté un peu uncanny du jeu où on ne sait pas si ce qu'on, dans le monde dans lequel on est, est-ce qu'il est réel ou non, est-ce qu'on est dans la tête de James, la réaction des personnages, toutes ces choses-là, et les animations faciales, ce genre de choses, et ben en fait, qui sont portées par des défauts techniques du moteur. Est-ce que ces éléments-là, est-ce que dans 15-20 ans, on aura le même rapport qu'on a aujourd'hui avec les jeux des années 2000, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que dans 20 ans, on se dira,
l'esthétique du remake de Silent Hill 2, ce côté Unreal Engine 5, 2020. C'est une question que je pose qui, je trouve, est vraiment hyper intéressante sur ce côté de est-ce qu'aujourd'hui il y a une identité visuelle dans les jeux ? Et je trouve sincèrement ce qu'arrive à faire le Survival Horror avec aussi, je pense beaucoup à Alan Wake 2, ces éléments visuels. J'aime beaucoup quand on rentre dans un endroit où il te met le nom en gros que reprend Resident Evil 9 d'ailleurs, dont on parlera plus tard. C'est-à-dire, il y a déjà des gimmicks, en fait. Il y a déjà des éléments tout de suite. Est-ce que générationnellement parlant, dans 15 ans, on se dira « Ouais, le Survival Horror dans les années 2020, il y avait tous ces éléments-là et comment on engage avec, en fait ?» C'est ça qui est hyper intéressant.
Oh non, si, totalement. Bah, je pense qu'il y a un peu ce qui fait aussi que ces jeux-là peuvent se rejoindre sur certains points esthétiques ou visuels. C'est que je pense qu'ils ont les inspirations communes aussi. Tu sais que dans le premier épisode, on avait déjà parlé de The Last of Us, et en soi, The Last of Us 2 était déjà sorti. Et en fait, ouais, genre, on voit que c'est les The Last of Us, tout comme des Outlast, Amnesia, ou des petits jeux indés d'horreur, ça a infusé, en fait, même dans des gros jeux comme ça, entre guillemets, un gros budget. Et en effet, quand tu vois du Alan Wake 2, tu vois la façon dont il gère ses écrans-titres, ses jumpscares, ses surimpressions ou autres. On avait aussi Jules qui nous parlait du jeu Routine, qui est un jeu très style TV cathodique, VHS, au niveau du grain de l'image.
Très liminal.
Ouais, horreur un peu liminal, totalement et tout. Bah, ça reprend des codes aussi, je pense, de notre génération, voilà, où on est très friand, entre guillemets, des SCP, genre des backrooms, de ce genre d'horreur et tout, avec du format analogique. Je pense qu'il y a un truc on voit, je pense, une nouvelle vague de jeux d'horreur qui vient jouer avec les nouveaux codes, qui n'est plus juste sur « Ok, c'est un setup qui est effrayant », c'est genre « Ok, comment tu joues en plus avec le format et avec le grain de ton médium, en fait ?» Et je pense que ça crée tout à fait un nouveau registre esthétique et qui est aussi inspiré par le cinéma. On voit ce qui se joue aussi beaucoup. Là, on est à une époque où, là, actuellement, le film Obsession cartonne. Justement le film Backroom pareil aussi apparemment cartonne aussi, et on voit qu'il y a une nouvelle vague de cinéma entre guillemets indépendant mais surtout d'horreur un peu plus modeste qui vraiment se fraye un vrai chemin au niveau du box-office et des jeux comme Routine que je le citais lors du bilan 2025 qui sont en plus des jeux qui ont été développés bien en amont ont réussi à choper un peu la vague avant que là vraiment elle éclate. Donc c'est fascinant de voir qu'au même moment on a des titres avec beaucoup de similitudes, vraiment. Et donc moi, je trouve ça assez chouette. Pour les échecs, malgré tout, moi, j'ai noté qu'un des jeux, ou même encore là maintenant, 3 ans après, je me dis, c'est dommage, Callisto Protocol, qui a vraiment coûté très, très, très cher. Je crois que c'était je ne sais plus combien de millions de dollars que j'avais coûté en développement. Et voilà, qui a vraiment amené la fermeture du studio qu'il a fait avec donc, le créateur original de Dead Space. Je me dis, ça c'est quand même très dommage que le jeu ait pas été à la hauteur parce que c'est pas non plus un très bon jeu, malheureusement, c'est très médiocre. Mais donc, pareil au niveau des ventes, Dead Space, pareil, à l'époque on disait, le jeu se vend plutôt bien, apparemment EA est plutôt content des ventes. 3 ans après,
Il y a l'Arabie Saoudite qui est passée par là.
Il y a quasiment aucune chance qu'on voit un Dead Space de remake ou une suite, c'est quasiment mort. Et donc, c'est vraiment dommage. Et donc moi, c'est parti comme ça de ces échecs où je me dis, c'est vraiment triste. Mais à côté, je sais qu'un des souhaits que faisait le Switch du passé, c'est genre, j'aime Resident Evil, j'aime ces licences-là, les Silent Hill, mais est-ce qu'il n'y aura pas de nouvelles IP ? Et il y a quand même de nouveaux jeux très prometteurs qui vont venir. Il y a eu le State of Play, il n'y a pas longtemps, qui nous a représenté un jeu qui devrait sortir l'année prochaine.
Ouais.
Qui a l'air extrêmement prometteur, vraiment super.
Jeu à la première personne... visuellement absolument sublime, hyper gore pour le coup, où on joue un mec qui apparemment se réveille d'un coma dans un hôpital et bref, on sait pas vraiment ce qui se passe. Je vous invite à voir le trailer parce que, enfin, âme sensible s'abstenir par contre, c'est très gore, c'est très visuel.
Voilà, ça fait vraiment partie de ces jeux qui ont vraiment une esthétique assez forte qui déjà est très marquante et à côté de ça, il y a aussi des jeux qui sont sortis, notamment par exemple Reanimal. Par ceux qu'on fait donc Little Nightmare, qui apparemment est très très bon. Ça, j'avoue, je n'ai pas eu le temps de le rattraper. Ouais.
Il y a eu, tu sais, le jeu en stop motion, Midnight Walk. Que j'ai joué un petit peu chez un ami. Et pareil, visuellement, vraiment de la stop motion, ça fait très Tim Burton, ouais, voilà ça. Ça, pareil, vraiment visuellement absolument sublime. Dans la sphère indé, il y a beaucoup de... Bon, qui ne sont pas forcément des survival, mais qui sont vraiment des jeux horreurs assez marquants. Je pense à... No, I'm Not a Human, je crois, c'est ça.
Ouais, je vois.
Mouth Washing, plein de jeux. Bon, il y a aussi ma recommandation, mais ça, je la garde pour plus tard, qui sont aussi des remakes, vraiment des jeux qui reprennent un peu une esthétique low poly des années 2000, de l'ancien âge d'or du genre. Et non, c'est, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un genre qui a envie.
Ouais, qui a envie et qui a un peu de nouveau sur l'avant de la scène. Et j'ai envie de dire. Que justement, genre, c'est bien parce qu'ils se vendent plutôt bien. On voit qu'il y a des jeux même qui fonctionnent très bien. Il y a le Dying Light 3, c'est Beast, The Beast qui est sorti, qui apparemment était plutôt bien vendu. Les retours étaient aussi plutôt bons et tout ça. Donc non, il y a pas mal de choses qui montrent que ce soit des anciennes IP ou des nouvelles, il y a une sorte d'appétence. On a le prochain Silent Hill donc, qui s'appelle Townfall.
Ouais. Et on a oublié un jeu de malade qui doit sortir, Alien Isolation 2.
Alien Isolation 2 aussi, voilà, qui a été présenté, qui a l'air super. Donc, ouais, il y a beaucoup... Là où à l'époque, on était en mode, il y a quelques suites un peu timides et tout, on espère que ça va marcher, genre Alan Wake 2, il y a eu un R4 remake et tout. Là, on est en mode, il y a Code Veronica qui a été annoncé, il y a Alien Isolation 2, il y a Hill, il y a tellement de choses qui
on
vont arriver.
On graille bien, sincèrement.
Il y a de quoi manger si vous aimez le genre. Et en soi, le jeu qui nous a donné envie de faire cet épisode-là, c'est un jeu qui, je pense, allie un peu tradition et modernité, qui est un des gros titres de l'année 2026. C'est peut-être même l'un des jeux de l'année, sûrement au GOTY, je pense.
Ouais, c'est sûr.
C'est Resident Evil Requiem, Resident Evil 9.
Qui est sorti fin février.
Ouais.
Et c'est incontournable, en fait, parce que... Déjà, je pense qu'il faut un peu parler de Capcom avant. C'est-à-dire que Capcom est sur une dynamique où on se pose la question, là, depuis quelques années... Est-ce que c'est pas le meilleur studio slash
de la génération,
là, depuis 2019-2020? Ils sont sur une vague, mais entre... depuis RE7, en fait. Depuis RE7, le remake de Resident Evil 2. Bon, il y a le vilain petit canard, le remake de RE3, le remake de RE4, RE8. À côté de ça, ils sortent quand même leur Pragmata. Là, il y a bientôt...
Street Fighter.
Il y a un Onimusha qui doit sortir bientôt. Il y a eu Monster Hunter l'année dernière. Bref, ils n'arrêtent pas. Et succès critique, succès de vente. J'ai une stat absolument tarée que j'ai vue ce matin, qui est des chiffres de Capcom officiels. Depuis un an, là maintenant, jour pour jour, il y a eu 23 millions d'unités vendues de jeux Resident Evil. Du coup, il y a Resident Evil Requiem qui a fait 7 millions, 6 millions 9 pour être plus précis, mais on va arrondir. Resident Evil Village, en un an, a fait 3,6 millions. RE4 Remake, depuis un an, 3,6 millions. RE3 Remake, 3,4 millions. RE2 Remake, 2,9 millions. Et RE7, 2,6 millions. Ça fait un total de 23 millions de ventes. Parce que, depuis un an, ils font des bundles vraiment pas chers. Ouais. On peut acheter, du coup, plein de trucs. C'était pour mettre une hype aussi autour de Resident Evil 9. C'est absolument fou. C'est absolument fou d'avoir des jeux. Je pense, moi, surtout, ce qui me choque le plus, c'est vraiment RE7. C'est le plus ancien de la liste. Qui fait super peur, c'est peut-être le jeu le plus parmi tout ça, le plus horrifique, vraiment celui qui, je pense, pas mal de joueurs le laissent un peu de côté et vont le faire peut-être à la fin, je pense. Pour un total de 23 millions, c'est absolument taré, et ça c'est sans prendre en compte Monster Hunter, Pragmata et Street Fighter. Donc ça montre que Capcom est sur une run absolument tarée, que l'entreprise va bien
et que surtout la popularité de Resident Evil a jamais été, je pense, aussi haute. Donc la RE9, je pense que si on voulait en parler avec Switch, c'est que c'est un peu le dernier gros chapitre de la licence qui est donc vraiment numéroté, comme RE8 ou RE7. Et surtout, c'est celui qui voit donc le retour de Léon. Et je pense que pour moi, l'angle qu'on va aborder et qui est fascinant, c'est vraiment plus une question de game design. C'est la logique qu'entreprend le jeu dans sa démarche créative, où quand on le fait en tant que fan de Resident Evil ou de fan de jeux d'horreur, il y a vraiment un truc qui saute aux yeux et c'est à quel point c'est une synthèse, en fait.
C'est une mosaïque, sincèrement.
Ouais.
C'est-à-dire, le jeu a réussi à englober, au-delà de Resident Evil, mais de tout ce que faisait le genre, en fait. C'est-à-dire, et même les fulgurances qu'il y a eu à côté, c'est-à-dire même des jeux occidentaux comme Alan Wake, voire même The Last of Us, ils ont réussi à s'inspirer, montrer à quel point c'est un genre qui est vivant, où vraiment, c'est une roue qui tourne. Moi, je m'inspire de toi, tu t'inspires de moi. Et c'est quelque chose de très sain. C'est vraiment un bon signe. Et RE9, on est vraiment dans une logique le All-Star Game, en fait. Genre, c'est-à-dire tout ce que vous avez aimé dans le Survival Horror, vous allez le retrouver, surtout dans Resident Evil. Et du coup, comme c'est une mosaïque pleine, comme on l'a dit, le Survival Horror a eu de bons moments et des moments un peu moins bien, bah, Resident Evil 9 subit un peu ça, du coup. C'est-à-dire, comme il y a un peu de tout, bah, il y a aussi un peu de pas bien. Tu vois, il y a un peu de méchant dans le gentil, tu vois.
C'est ça, c'est exactement ça. Il est vraiment à l'image, en fait, du genre depuis les 15 dernières années. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a créé une fascination avec le jeu, qui pour moi se divise un peu en deux parties,
ouais.
Tout comme les deux protagonistes. Pour vous faire du coup une petite présentation du jeu, donc sorti en février, comme on l'a dit. Donc, on suit Léon S. Kennedy, un peu plus âgé, à Raccoon, enfin pas Raccoon City, dans une ville à côté, je sais plus où, qui fait une enquête parce que tous les survivants de Raccoon City ont un virus. Donc, Léon cherche un remède à ça. En même temps, donc il enquête sur les meurtres, enfin les victimes de ce virus. Et à côté, on suit donc Grace Ashcroft,
qui est la nouvelle protagoniste. Ouais.
Ouais. Data analyst du FBI qui doit enquêter pareil donc sur ces mêmes crimes et retourne du coup dans un hôtel où sa mère a été assassinée il y a très très longtemps. Et en fait, les deux protagonistes vont être amenés à se croiser, échanger, et on va alterner donc des phases de gameplay très horrifiques avec Grace, où vraiment c'est la première personne, recommandée à la première personne. Je dis recommandée parce que du coup le jeu vous laisse le choix du point de vue. Vous pouvez choisir de jouer le jeu à la troisième ou première personne, que ce soit avec Grace ou Léon. Et du coup, voilà, le jeu vous propose donc ces deux personnages-là avec des phases de gameplay très intimistes et très effrayantes dans les mains de Grace, dans la peau de Grace. Et quand c'est avec Léon, ça va être beaucoup plus nerveux, dynamique, beaucoup plus proche d'un RE4 avec ses petits twists. Et si moi, par exemple, je devais aborder, je pense, la partie de Grace, je pense que ouais, c'est assez fascinant de voir qu'ils ont pris ce qui marchait avec RE7 et RE8. Mais ils ont réussi à le moderniser d'une façon qui, je trouve, est hyper intéressante, où il y a quelque chose qui, comment dire, tu sais, qui fait pas genre, qui fait All-Star Game, en mode, ah, c'est ce qu'on a fait depuis quelque temps avec Pity et tout, ce qui est monté avec des Amnesia, Outlast et tout, en termes d'horreur pure. Et en même temps, ils arrivent à négocier un virage de, c'est l'ADN Resident Evil que vous connaissez, où il y a la mallette, gérer son inventaire, son loot et tout.
Là, c'est très traditionnel.
Très traditionnel, ouais. Mais il y a un truc dans la façon dont les zombies, tu les affrontes et tu les confrontes, qui fait un peu immersive sim de, en effet, c'est très dynamique.
Oui.
Et je pense que c'est un twist qui, pour moi, est extrêmement rafraîchissant, de se dire c'est pas juste des zombies décérébrés dans la première partie du jeu qui se passe dans un manoir, encore.
Oui.
Et où vraiment, genre, quand tu rentres dans la zone, tu te dis, ah ok, genre, ces zombies-là, je vais pas les attaquer de la même façon ou les contourner de la même façon que d'autres, parce que il y en a peut-être un qui est fasciné par la lumière, donc si j'allume telle lampe, il va aller le voir. D'autres, c'est par rapport à la saleté, le bruit et tout, tu vois. Et donc, je me dis, ça crée comme ça des espèces de mini-game design, de mini-level design, où ça enrichit ton gameplay sur des toutes petites zones, tu vois.
Et surtout, ça crée un... Comme on l'a dit, avec Grace, voilà, on a beaucoup moins de munitions. C'est-à-dire, on est vraiment dans une logique que si je peux éviter l'ennemi, je vais essayer de l'éviter plutôt que d'avoir à le confronter. Et surtout, en fait, ils arrivent à créer... chaque ennemi est un moment. Et c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire, mais depuis le OG Resident Evil 2, en fait, voire peut-être, allez, je monte à Code Veronica, peut-être le premier Resident Evil, où en fait, chaque... Parce que dans RE4, on avait déjà un peu perdu ça, voire même RE3, où rencontrer un zombie, c'est déjà quelque chose d'un peu plus normal.
Ouais,
c'est juste,
ouais,
que je veux dire, en mode, c'est juste un obstacle sur le chemin. Mais là, vraiment, on est réussi à revenir à un moment où, purée, ils ont réussi à encapsuler cette identité du genre, où vraiment, genre, chaque zombie qu'on rencontre, c'est un moment majeur, en fait. Et je trouve que c'est fait vraiment à merveille, vraiment dans la première partie. Ça, vraiment, le moment du manoir. Et je pense que moi, vas-y, fuck it, je vais déjà jusqu'à la truc. Est-ce que vraiment cette première partie de Resident Evil 9, ce serait pas, genre, peut-être l'un des meilleurs... Moi, personnellement, manette en main, je sais pas si t'as ce ressenti là, tu le partages. Je me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant kiffé en jouant à un jeu d'horreur survival, en fait. Mais au-delà même du fanservice que ça peut avoir, moi, je parle sincèrement des sensations que j'ai pu avoir sur les trois premières heures, jusque vraiment du moment où on rentre dans le manoir et au moment où on sort. Ça a été un moment où je me suis dit, oh mon Dieu, c'est peut-être le meilleur Resident Evil, en fait. Et après, bon, il y a ce qui se passe après, ouais. On va revenir là-dessus, mais c'est vraiment touchant. Moi, c'est vraiment un moment qui m'a touché, où je me voyais jouer à des jeux d'horreur vraiment il y a longtemps et tout. Il y a vraiment quelque chose qui... Mais ça transcende le fanservice, sincèrement. C'est-à-dire, ils ont réussi à... Et je trouve que le personnage de Grace englobe vraiment ça, parce qu'il y a quelque chose qui... Je trouve que c'était perdu avec le personnage d'Ethan, et qui s'était perdu depuis RE4, en fait. C'est-à-dire, les protagonistes, et c'était un peu avec l'univers de Resident Evil et comment le scénario aussi jouait là-dedans, les protagonistes ont toujours eu un rapport un peu je m'en fous face à ce qui se passe, tu vois. C'est un truc qu'a Léon dans RE4, où le mec, bah, c'est un peu normal, tu vois, le mec il a tout vu, tu vois, genre, donc ça ne choque pas de voir un monstre énorme. Ethan, le mec, il peut perdre un bras et juste mettre du sirop à la menthe et dire oh purée, je ne perds ma jambe, c'est genre vraiment en mode, le mec il sait que gris, et tu sais, genre il y a vraiment une sorte de dissonance un peu qui se crée, mais c'est quelque chose qu'on tolère dans la diégèse du jeu, pardon. Et Grace, c'est un personnage qui a peur, et ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un personnage qui avait peur, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui fait du bien. Grace, elle arrive à encapsuler la sensation qu'on avait dans cette ère-là du survival horror du début des années 2000, en fait. Et manette en main, quand on la joue à la première personne et que on voit qu'elle tremblote quand elle tient son 9 mm, le fait qu'elle ait un inventaire mais méga réduit au début du jeu, elle a genre 8 cases au tout début. Le fait que le jeu propose un mode classique où en fait les possibilités de sauvegarder vont être en fonction d'un consommable, c'est-à-dire le jeu peut limiter le nombre de fois où on fait des sauvegardes, vraiment comme dans le premier Resident Evil. Et le jeu propose ça, et je trouve que c'est un jeu qui a conscience de ce qui marche. Je pense que c'est ça qui est fort dans ce Resident Evil 9. Il sait ce qui fait la force du genre, et le fait que tout simplement dans le jeu il propose par défaut Grace à la première personne et Léon à la troisième personne, par défaut le jeu fonctionne, en fait. C'est-à-dire le jeu a conscience de ce qu'il est et de comment il doit marcher, et c'est un niveau de maestria vraiment que j'avais pas vu depuis très longtemps, en fait. Et c'est vraiment vraiment là-dessus chapeau Capcom.
Ouais, non, mais je te rejoins quand tu parles de la sensation manette en main. Je pense que les premières heures, je me suis dit pareil, est-ce que c'est pas le meilleur survival horror de ces dernières années? Genre, vraiment, je me suis dit, là, de cette génération qu'on est, genre, peut-être que j'ai pas fait de meilleures séquences, en fait. L'enchaînement Grace et Léon, surtout, il y a un truc où le fait de passer de l'un à l'autre, c'est extrêmement satisfaisant. Le fait de passer vraiment donc, de Grace, qui, en effet, tremblote, a le souffle court, quand elle se met à cavaler, parce qu'il y a la sœur, ouais, c'est ça, qui l'a poursuivi tout dans les couloirs de ce manoir, on est terrifié. Et le fait est ensuite d'enchaîner, quand on passe dans certaines zones avec des zombies et tout, de passer à Léon, qui lui, ouais, en effet, c'est le vieux de la vieille, il a tout vu, il est éreinté par la vie, il est malade. Ouais, le poteau, c'est bon, il est fatigué. Il a la sauce, mais là, il a plus trop le temps. Et du coup, tu le vois, lui, nettoyer genre des zombies à tour de bras, avec à coup de suplex et de coup de pied retourné, manier évidemment une tronçonneuse pour la première fois, avoir sa petite hache de combat qui est extrêmement genre cool à manier. L'idée que vraiment, genre, comparé au couteau de RE4, non, si tu peux l'aiguiser pour continuer à apparaître entre guillemets à volonté, c'est vraiment hyper hyper fun. Genre, c'est ça qui est fou, c'est que dans un jeu qui fait aussi peur par moment, il y a vraiment un truc où le combat TPS est genre extrêmement léché.
Ah, c'est du rock et c'est hyper bien rythmé.
Ouais, genre, c'est vraiment super, et c'est parti comme ça du cœur de gameplay où pour moi c'est vraiment hyper satisfaisant. Il y a même un truc dans le placement de caméra, tout simplement, comment Léon est mis en scène. Tu sens que, ouais, genre, le poteau, il est expérimenté. Et genre, je vais pas compter le nombre de fanart qu'il y a par rapport à son biceps quand il ouvre un tiroir. Mais il y a un truc où ça met en emphase son expérience à lui face à Grace, qui découvre un peu ce monde-là et cette part de New Resident Evil qu'elle n'avait pas en tant qu'analyste. Et ouais, je trouve que la friction des deux, elle marche extrêmement bien.
L'osmose est parfaite.
Ouais. Jusqu'à un moment. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler, parce que pour moi, ça fait partie des éléments qui, de par les dernières années du survival horror, c'est étonnant de voir que beaucoup de studios ont voulu tenter ce virage-là. Je me l'étais noté dans mes notes, vite fait. C'est le tournant open world.
Semi-ouvert, un peu. Ouais.
Semi-ouvert, en tout cas.
Ouais.
The Evil Within 2 l'a tenté en 2017. The Last of Us 2 l'a tenté en 2019.
Ouais,
2020.
À Boston, ouais.
Voilà,
ouais.
À Boston. Et là, Requiem le tente donc en 2026. En soi, Alan Wake 2 l'a fait aussi.
Ouais.
Là, en 2023, 2024, 2023, je crois.
Ouais, je crois que c'est 2023.
Et en fait, il y a une part de moi qui me pose la question de est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça fait partie des phases qu'on retient le plus dans ces jeux-là? Je sais que pour Alan Wake 2, que moi j'ai fait, c'est une phase que je trouve extrêmement réussie parce que ça sert plus de hub comme The Last of Us 2, mais où l'ambiance, elle est tellement réussie parce que c'est un New York à la Taxi Driver hyper avec des néons anxiogènes et tout, que pour moi, l'ambiance que ça propose est super. Mais c'est pas l'exploration de la zone que je trouve captivante, c'est vraiment l'ambiance. Donc je trouve qu'ils arrivent à éviter la balle, comme on dit, dodge the bullet. Sur The Last of Us 2, ça marche parce que c'est, je trouve ça assez fun avec la carte et tout. The Evil Within 2, je l'ai pas fini, ça m'avait un peu embêté, mais je trouve qu'il y a un peu de cette espèce de... Forcément, le mec a créé Resident Evil, c'est Shinji Mikami. Et donc, quand tu vois Requiem et que t'as le passage où c'est un mini-spoil, mais si vous l'avez vu ou si vous avez vu le jeu, il y a un gros passage de gameplay, vraiment de plusieurs heures, je pense.
Ouais,
de bien
ça, c'est long, hein, 2 heures.
2 heures au moins, ouais. De Léon dans Raccoon City, en semi-open world. Et je pense que c'est la partie la plus faible du titre. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, oui. Moi, pour moi, le jeu s'essouffle vraiment à ce moment-là. Il y a vraiment un creux. Surtout qu'on vient de sortir d'un moment absolument fou avec Grace. Le moment où, en plus, elle doit récupérer la... J'ai oublié son nom, mais tu sais, la petite fille. Ce moment-là,
Emily.
Emily, ouais. Ce moment-là, je trouve que c'est peut-être la meilleure idée du jeu. Ce personnage-là, sincèrement, en termes de gameplay, c'est exceptionnel. Et le moment où on arrive à Léon à Raccoon City, il y a quand même un truc de... Ok, c'est chouette, genre le fanservice, là, moi, sûrement fonctionne en mode, oh purée, il y a Léon qui revient, mais en plus, il y a ce truc un peu post-apo, vraiment, où du coup, c'est Raccoon City après le bombardement. Du coup, la ville est à cendres, littéralement, il ne reste que des cendres. Et se balader dans les buildings, il y a un aspect très vertical. Vertical, où on doit monter dans des buildings, ça ressemble beaucoup à ce que peut faire Last of Us 2. Et ça marche moins. Ça marche moins parce que je trouve qu'on est... C'est-à-dire, même si les phases avec Léon avant marchaient d'un point de vue action, là, le rythme marche moins parce qu'on est vraiment full action, mais on est vraiment dans un moment où, en fait, on se balade, en fait. Il n'y a pas vraiment en termes de level design, où avant, il y a toujours un aspect où, tu sais, Metroidvania, j'ai envie de dire, on doit revenir sur nos pas pour ouvrir certaines portes, ce côté un peu limbiratique qu'on pouvait avoir. Et là, en fait, le jeu s'ouvre trop. C'est un peu une sorte de RE4, mais en XXL. Qui s'ouvre trop, en fait, et ça marche beaucoup moins que comme l'a pu faire Last of Us 2, parce que dans ma tête, c'est vraiment la référence. Et à ce moment-là, le jeu s'essouffle. Je trouve que visuellement aussi, le jeu manque un peu...
C'est pas la partie la plus inspirée.
C'est pas la plus inspirée, tu vois, visuellement, que ce soit vis-à-vis de la fin ou le début. Et c'est-à-dire même le moment du commissariat qui... D'un point de vue narratif, est cool, intéressant, intriguant, ça, y a pas de doute, genre, ça marche, le fait qu'on, bon, spoil, fuck it, j'en ai rien à secouer, quand on revoit Wesker, à ce moment-là, genre, oui, il y a quelque chose qui se passe, quand on revoit le mec retourner dans le bureau, où il voit des anciennes photos, ce genre de choses, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est le temps d'un instant, en fait, genre, ça dure 15 secondes, et après, en fait, on se rend compte que c'est assez creux, et le jeu, à ce moment-là, est vraiment moins bien rythmé.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
Et à la fin, je trouve que le jeu genre arrive à remonter un peu en termes de momentum parce que le scénario est quand même hyper intriguant autour de Grace, ce genre de choses, et Elpis, voilà le... Et même si on a la séquence en moto, ça je pense que t'es obligé de la mentionner. Ce moment-là aussi, genre, tu vois, quand on parle de Mosaïque, la séquence en moto, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas une séquence de conduite, c'est une séquence de tir. Quand on
prend la séquence de rail shooter.
Ouais, de rail shooter, en fait, le jeu, il nous dit pas comment conduire la moto, il nous dit comment tirer sur. Quand on est sur la moto, et la moto, ça va se conduire toute seule, elle est en mode automatique. Et ce, voilà, moi, je repense au. C'est vraiment, voilà, cette référence au jeu Umbrella Chronicle sur Wii à l'époque. Franchement, c'est hyper chouette. Et voilà le combat contre Gideon et les loups là qui nous suivent, les loups mutants, genre c'est très Resident Evil et ça fonctionne. À ce moment-là il fonctionne et tout, c'est très hype. Mais tu as même le combat contre Mr. X quand il revient, tu sens qu'il, je dis pas qu'il est là pour il est là parce que faut un boss rush et faut le mettre parce qu'il faut le mettre, mais c'est-à-dire le moment où il nous poursuit dans le commissariat, dans ma tête c'était assez. Il nous poursuit, on arrive à l'éviter. Et le fait qu'il nous met quand même il nous le met là en boss fight, j'ai l'impression qu'il fait très meuble, en fait. Ouais. Genre, j'ai l'impression qu'il est là parce que, vas-y, Léon, il doit le battre. Et même la plante là, qui vient juste après, la plante zombie et tout.
Ouais.
Vraiment une sorte d'énorme monstre. Pareil. Et je trouve que le moment où on rentre par contre là, dans les laboratoires d'Umbrella sous terre, là le jeu regagne en momentum. L'une des raisons, c'est parce que, bah, on retourne avec Grace.
Ouais.
Moi je pense que là, sincèrement, c'est bête à dire, moi j'adore Léon de toute mon âme, mais je pense que les moments les plus faibles du jeu sont avec lui. Et je trouve que Grace arrive à... Pour moi, c'est elle qui tient la baraque, en fait. Sincèrement, ouais. Les séquences avec Grace sont absolument sublimes. Même à la fin avec les liqueurs, je sais pas, il me semble que toi, t'es pas trop d'accord avec moi là-dessus.
Mais moi,
je trouve que
ouais.
Le fait de remettre les liqueurs, je trouve que ça permet de redynamiser cette logique. C'est des claqueurs, en fait, le côté de « il nous voit pas et on doit jouer avec les sons », ce genre de choses. Ça fonctionne hyper bien. Mais voilà, c'est R9, il est vraiment très spécial. Je sais pas ce que toi tu penses de ce moment à vide.
Non, moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Liqueur un peu moins, mais finalement, moi j'ai fini le jeu 3 fois, donc la 3e fois ça m'a plus plu. Okay. Enfin, bizarrement, par rapport à la première fois, parce que je pense que je me suis mis des obstacles parce que je trouvais ça un peu trop facile. Je pense que la première fois, je me suis dit, ah, pourtant je l'ai fait en mode classique avec les rubans, mais je me disais, en fait, il y a un truc où je trouve que le jeu te donne beaucoup d'aide quand même pour traverser le labo sans te faire repérer et tout. Et je me disais, ah, si je fais sans injecteur ou sans de truc de ferraille à farmer, là, ouais, je suis vraiment en carafe et pour le succès à débloquer, c'est chaud. Mais non, je trouve que je suis d'accord sur le fait que Grace porte la baraque. Pour moi, c'est vraiment genre, c'est le personnage qui fait que le jeu est aussi bon et aussi haut, je pense, dans les jeux, là, pour l'instant, que j'ai fait cette année. C'est que, ouais, elle est super en tant que protagoniste. Elle est super à jouer aussi. Même à la 3e personne, du coup, j'ai fait une run un peu avec. Et les animations qu'il y a quand tu vois le briquet dans ses cheveux, les trucs et tout, des choses que tu vois pas à la première personne. Moi, c'est ça que je trouve ça fou, c'est que c'est pensé pour la première personne, mais il y a un travail qui est fait sur la 3e personne et sur les animations où tu te dis, nom de Dieu, c'est un soin qui a apporté.
Ah, c'est premium, hein, c'est
à la réalisation.
Léger.
Ouais. C'est vraiment du triple A au sens de. C'est pas au sens de blockbuster de ah, ok, c'est impressionnant, les explosions partout, c'est au sens de c'est léché. Il n'y a pas un élément comme ça qui paraît genre mis de côté, pas un asset qui paraît genre pas au bon endroit avec la mauvaise texture. C'est d'une beauté infinie sur console et sur PC, même sur Switch 2. Et c'est ça que je trouve fou, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une mauvaise façon de jouer au titre. Et moi, je pense que c'est ça qui fait que je suis assez admiratif de me dire que bah, un jeu pareil, avec un moteur, le RE Engine, qui peut faire des prouesses pareilles et être aussi genre. S'adapter comme ça à plein de formats différents, à plein de plateformes différentes, ça fait que c'est hyper accessible.
Ça se trouve, on le verra en VR, le jeu, bientôt.
C'est pour ça. Le jeu est sur plein de plateformes. Switch 2, PS5, Series S, X, PC, sûrement sur des plateformes avec le cloud. Vraiment, il y a plein de façons d'y jouer. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y. C'est pas un jeu qui est vite fait sympathique et qui est intéressant à théoriser. C'est que c'est vraiment un jeu mal net en main, comme dit Swill. C'est extrêmement kiffant.
Non, mais si je peux même rajouter, pour moi, c'est déjà un jeu majeur de la génération. Pour revenir à ce que tu disais sur l'aspect léché et premium du jeu, sincèrement, c'est... Comme on le disait avec Capcom, c'est vis-à-vis d'RE4, et je pense j'en parlais dans un épisode de bilan, cet aspect, la confiance, c'est genre, tout est propre de l'annonce du jeu à sa sortie, où vraiment, genre, on annonce le jeu, il y a un mois de sortie, certains jeux ont eu des démos, je pense à Resident Evil 4, le jeu se fixe une date, le jeu sort, il fonctionne, il vaut son prix, c'est-à-dire c'est un jeu triple A. Et en termes d'expérience triple A, on est déjà sur un jeu de la génération, en fait, c'est-à-dire
ouais.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, après, on va revenir peut-être après sur, je sais pas, sur un classement, où est-ce qu'on le met dans notre cœur, est-ce qu'il parle avec le haut du panier ou non. Ça, c'est indépendamment de ça, c'est déjà un incontournable. Et c'est pour ça qu'on, même voilà, avec un GTA 6 à la fin de l'année, ce genre de jeu, et un Wolverine, je sais pas, plein d'autres trucs, c'est déjà un incontournable de l'année et c'est limite, j'ai envie de dire, c'est un jeu à faire en fait. Et c'est un jeu qui est pas exempt de tout défaut, loin de là. Mais le fait d'avoir Capcom qui est là et qui rend au triple A, pour pas parler d'autres studios, bonjour Bethesda ou bonjour je sais pas d'autres jeux, le fait que genre, on sent que c'est un studio qui aime sa licence en fait. Qui en faisant un jeu voilà, un peu All-Star Game, un peu mosaïque, en touchant un peu à tout, et le fait qu'on sent que c'est une nouvelle génération de développeurs qui travaillent dessus, où on a vraiment l'impression que c'est un jeu qui est fait par des gens qui aiment le survival horror, en fait, et qui savent ce qui marche et qui apportent du soin à ce que doit être le jeu. Et je pense sincèrement que c'est Resident Evil 9. Je suis tellement content que ce jeu-là existe, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme le remake de Silent Hill 2, où en fait, ça nous rappelle pourquoi on aime le genre à la base. Et avec ses qualités et ses défauts, ils ont su capter ce qui faisait l'identité de la licence déjà dans les années 2000, mais ils ont réussi à englober ce qu'elle a pu être aussi par après, et ça crée une sorte de chimère, mais dans le bon sens du terme. Sincèrement, c'est vraiment un jeu, je pense, genre, peut-être l'un des plus intéressants à analyser de ces dernières années. Et le fait d'avoir vraiment voilà, un triple A là, qui sort, qui est annoncé que depuis un an et demi. Il a été annoncé à la dernière, au Summer Game Fest de l'année dernière. Et le jeu, il sort un an après. Et il n'y a rien à dire, en fait. Le jeu, il fait 7 millions de ventes. Il fonctionne. Et c'est pas, en fait, ce genre de niveau-là de qualité, ça devrait être pour une industrie triple A qui sont capables de mettre, je sais pas moi, 400 millions dans un Gears of War, capables de mettre des centaines et des centaines de millions sur ce genre de titre. Et ben, c'est pas normal que ce standard de qualité-là, on l'ait perdu.
Ouais, il soit aussi, entre guillemets, rare. Ouais.
C'est vraiment
rare. Mais je pense que, ouais, pour amener, entre guillemets, petit à petit la conclusion, je pense que c'est pour ça qu'on voulait parler de RE9. Je pense que c'est très pertinent quand tu parles de qualité, de standard de qualité. C'est que la question à laquelle on a répondu dès le début de l'épisode de est-ce qu'on serait pas dans un nouvel âge d'or, ou s'il est déjà passé, du jeu vidéo d'horreur, de l'horreur, en répondant oui, c'est parce que, en effet, les propositions, les titres qui sont sortis là, donc depuis 3 ans, on se rend compte que c'est des titres qui sont hyper peaufinés, que ce soit du Silent Hill 2 Remake, du Silent Hill F, du Alan Wake 2, du RE Requiem. Là, il y aura Code Veronica l'année prochaine, Alien Isolation 2. Il y a plein de titres, en fait, qui sortent, qui sont hyper peaufinés et qui sont riches en idées. Et je pense que dans une industrie qui est aussi mal en point, c'est aussi ça, je pense, qui fait qu'on aime autant ce genre-là. Et Capcom, je pense que pour moi, il y a un peu le côté lettre d'amour à Capcom pour leur dire que... Enfin, ils n'écoutent pas RNG, mais l'idée que... Et c'est sûrement l'éditeur qui gère le mieux cette génération, en fait, en termes de sortie de titres, comme on l'a dit. Et surtout parce que chacun de leurs titres n'est pas rushé. Genre là, ils ont sorti en l'espace de 2 mois Resident Evil Requiem et Pragmata, qui sont 2 succès critiques de l'année. C'est vraiment... Genre Pragmata, je l'ai commencé, je sais déjà que c'est un jeu de l'année. Peut-être pas autant que Requiem, à voir si c'est peut-être pas plus en avançant, mais c'est tellement frais et intéressant et bien foutu. Je me dis, putain, oui, en fait, genre les mecs, ils arrivent à sortir en l'espace de quelques mois sur une petite fenêtre de sortie 2 gros jeux de leur catalogue. Les 2 sont bons.
Et il y a Onimusha qui arrive dans quelques mois, tu vois. Genre, c'est ça.
Et dans une période où là, actuellement, on n'a pas encore eu les. Quand l'épisode sera sorti, on aura le format de l'histoire. Mais donc là, on n'était que quelques semaines, entre guillemets, enfin, 1 semaine et demie après le Xbox Game Showcase. Et on sait qu'il y a de nouveaux licenciements qui sont prévus du côté de Xbox, Microsoft. Donc il y a Ninja Theory, Double Fine, Completion Games et Arkane, qui seraient apparemment soit en train d'être en négociation pour être rachetés par d'autres studios, enfin, par d'autres entreprises, pour pas mettre la clé sous la porte, ou juste vont peut-être être fermés, licenciés. Donc des studios qui sont quand même très talentueux. Et donc à une époque où Sony, il y a quelques mois, a décidé de pareil, donc fermé Bluepoint, c'est un studio qui avait un savoir-faire absolument fabuleux. C'est-à-dire que ça s'est perdu. C'est-à-dire que Xbox, pareil, ils sont toujours bénéficiaires. Il faut se dire qu'Xbox rapporte de l'argent. C'est un truc où moi, ça m'énerve de lire sur Twitter ou les réseaux que c'est compréhensible le licenciement. Ils gagnent de l'argent. Ils ne sont pas en déficit. Chaque année, chaque trimestre plutôt, ils brassent des milliards. Le problème étant qu'en effet, ils baissent dans leurs objectifs de trimestriel. Enfin, ils sont en baisse comparé au mois précédent, mais ils sont bénéficiaires. Ils perdent pas d'argent. Et donc, se dire qu'ils vont licencier encore des gens, il y a des studios qui vont encore être fermés. Alors que si, en effet, ils sont frappés par l'IA et les coûts des composants, c'est parce qu'ils investissent eux-mêmes dans l'IA. Il y a quelque chose d'extrêmement rageant à avoir une espèce de puits qui s'empoisonne lui-même et de dire « Ah, mais pourquoi l'eau, elle est pas potable ?» Gros, c'est toi qui jettes l'acide dedans, en fait. C'est toi qui jettes ta pourriture et tous ces déchets-là. Donc oui, après, tu peux plus boire à la source. Et donc, dans cette industrie-là, dans cette espèce de mood où, avec, comme on l'a dit, le Summer Game Fest dans l'épisode précédent, on a beaucoup de choses plutôt chouettes, avalanche de titres, mais en même temps, on voit le côté très mercantile de le jeu vidéo doit un petit peu, genre, soulever sa jupe pour dire hey, vous avez vu, genre, nous aussi on est cool, vous pouvez vendre vos jus, vos produits, vos gachas, mettre vos stars de cinéma parce qu'on a besoin un peu de vous. On se dit, dans une industrie comme ça, où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, ou en tout cas d'instants, où c'est dur, je pense, en tant que joueur, d'être heureux, en fait. Je pense que vraiment, si on vit en tant que gamer sur des forums et qu'on participe au discours, on va dire, ambiant, c'est compliqué de pas être un peu blasé. Et donc, pour moi, genre, ou cynique, tout simplement. Et donc, voir Capcom et les jeux d'horreur parmi ça se tenir un peu comme des. Être ceux qui subissent le moins, entre guillemets, les affres comme ça du courant, qui arrivent à se tenir debout et à proposer des vraies propositions de jeux vidéo grand public sans se dire ah bah, parce que Error Requiem, c'est un jeu grand public et pour autant, il n'est pas si accessible que ça, entre guillemets. Il va pas, il y a une difficulté qui se règle, mais le jeu n'est pas en train de faire des concessions pour les néophytes.
Ah, c'est un jeu qui est challengeant.
C'est un jeu qui est quand même challengeant.
C'est un jeu vidéo.
Voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant de me dire que ouais, c'est le genre actuellement qui se tient le mieux. Je pense que si on devait penser là au genre dans le jeu vidéo, pour moi, ouais, je pense que ma texte, oui. Il y avait la conclusion, c'est le genre qui se tient le mieux actuellement.
C'est le genre qui se tient le mieux en termes de propositions et c'est assez, j'ai envie de dire, un peu paradoxal vu l'état de l'industrie actuelle de se dire que c'est les jeux d'horreur qui arrivent à tenir la baraque et qui sont ceux qui... Que ce soit en Europe comme au Japon, Alan Wake, ou même aux États-Unis avec Last of Us, qui est quand même un jeu d'horreur, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Last of Us quand même.
Ouais.
Le dernier vrai en date, c'est Last of Us 2, mais c'est je sais pas, est-ce que je dois voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? C'est-à-dire, est-ce que je me dis, purée, c'est rageant que ce soit le seul truc qui va bien, ou. Eh, c'est le seul truc qui va bien comme ça. Parce que vraiment, je suis fan du genre, et du coup, je me dis, eh, purée, si parmi tout ça, c'est le seul truc qui va bien. Je sais pas, c'est un rapport assez étrange, et sincèrement, là, ces derniers mois, j'en avais parlé un peu dans les licences mortes et dans l'esthétique, où il y avait vraiment une. Tu sais, il y a une flemme. Et tu vois, si là, on a fait 2 mois, je pense, sans épisode, pour des raisons qui sont personnelles et tout, je pense qu'aussi, j'avais pas aussi cette. Au fond de moi, une vraie rage, une vraie envie de parler de jeux vidéo parce que j'étais vraiment accablé, vraiment ça me saoulait. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on a fait RNG, je le répète assez souvent, c'est parce qu'il y a vraiment des choses cool à dire. On serait pas là à vous parler de jeux vidéo si dans le fond on n'aime pas ça. Genre. Mais là, en fait, on atteint un stade quand je pense que l'industrie peut atteindre genre des bassesses, bah, en fait, ils arrivent encore à creuser, à aller encore plus loin. Après même un Xbox Game Showcase. Qui semble être rassurant vis-à-vis de l'avenir où on se dit ok, genre l'arrivée de Awa Sharma, c'est ça
ouais. Asha Sharma.
Asha, pardon. Et genre elle arrive à revenir sur là depuis 6 mois, à vraiment tenter de revitaliser la marque et on lui souhaite que le bonheur, tu vois. Le problème c'est que derrière, ce qui est paradoxal avec tout ça, on fait la parenthèse Xbox là depuis quelques temps, le fait de savoir que c'est Microsoft derrière qui creuse la propre tombe de Xbox, c'est... avec tout ce qui est histoire d'IA et de composants et d'inflation dans l'industrie, ça me rend migraineux. Ça me ouais. donne un mal de crâne et j'ai envie de taper partout. Mais Dieu merci, dans tout ça, il y a des jeux comme Resident Evil 9 qui existent, en fait. Ouais. Et alors que c'est même pas mon Resident Evil préféré, hein, je pense... je sais pas si on s'amuse à essayer de le caler, je sais pas si ça te fait plaisir.
Moi, il est dans mon top 2.
Ah oui ! Ah oui ! Ok ! D'accord.
Il est pas deuxième. Non,
c'est
vrai que
je
suis
intacable.
Moi, il est top 3 en vrai.
Ouais, top 3 aussi. Ouais. Top 3. Je pense pas qu'il discute avec genre RE2, RE4. Je pense que pour moi, ces deux-là sont quand même un step au-dessus dans le rythme. Dans la globalité, c'est RE9 souffre vraiment, je trouve, pour un jeu qui se veut dense, d'un creux assez marquant au milieu de l'expérience.
Ouais.
Mais pour moi, ça reste au-dessus, genre d'un RE7, sincèrement. Mais on passe au reco. T'es chaud ? T'as combien de recos ?
Moi, j'en ai qu'une seule.
Eh ben, j'en ai qu'une seule.
Ah bah voilà, nickel. Tu veux commencer ?
Vas-y, je commence.
Vas-y.
Eh ben moi, ma reco, je sais pas si vous vous souvenez, le premier épisode, j'avais proposé un jeu qui s'appelle Signalis, qui est un D-Make, qui est un jeu indépendant, en hommage à l'âge d'or du genre, sur PlayStation 1 et tout, vraiment côté low poly esthétique. Et bah, je suis pas allé chercher bien loin, j'ai pris un jeu dans le même style, en fait, qui s'appelle Crow Country. C'est un jeu de 2024. Développé par SFB Games, et c'est vraiment là où Signalis est vraiment un hommage vraiment assez un hommage vraiment à Silent Hill dans le côté horreur psychologique, vraiment ce côté où on a du mal à savoir la réalité du jeu, on a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Et bah là, Crow Country, c'est vraiment, je trouve, limite un hommage à Silent Hill 3, avec toutes les séquences dans le parc d'attractions qui est du coup le Lakeside Amusement Park de Silent Hill 3. Et là, en fait, voilà, Crow Country, voilà, c'est un jeu qui du coup se passe dans les années 90. On joue une enquêtrice qui va dans le parc d'attractions Crow Country, où en fait, on doit essayer de retrouver le directeur du parc, le propriétaire. Et voilà, en fait, c'est un gameplay voilà, qui est vraiment ce côté avec des contrôles très tanky, des caméras fixes, il y a plein de puzzles, quelques ennemis par-ci par-là. C'est vraiment un jeu tout mignon. Vraiment, il y a un côté de... C'est là où Signalis, c'est très psychologique. Genre vraiment, c'est en mode, putain, tu joues au jeu, t'es un peu blasé. Mais c'est génial, hein, c'est, faites-le. Hein. Là, Crow Country, c'est un peu vraiment un hommage, mais j'ai envie de dire un peu plus doux. Un peu plus doux. Et je le trouve absolument, absolument charmant. Donc voilà, on joue Mara, je crois, ça, le personnage, le nom de la protagoniste. C'est super cool. Franchement, jouer à Crow Country, voilà, c'est mon seul jeu, parce que pour moi, voilà, RE9, logiquement, c'est un jeu qu'on recommande. tous les jeux qu'on a pu proposer aussi dans le premier épisode, Dead Space, le remake de RE4. Voilà, jouer à des survival horror, c'est bien.
Ouais. Et moi, du coup, ma recommandation, c'est un titre qui compte de plus en plus dans mon cœur, plus j'y pense. C'est Chronos The New Dawn par la Bluebird Team, donc ceux qui ont fait le remake de Silent Hill 2. Après, je crois que dans le studio, du coup, là, c'est la team qui s'était occupée de The Medium qui l'a fait. Donc, ça s'est développé à partir de 2021, pendant que, justement, ils travaillaient sur Silent Hill 2 dans leurs locaux et tout. Et ils voulaient faire un jeu donc plus focus sur le gameplay après The Medium, qui est un jeu très sympa en termes d'ambiance, qui se passe en Pologne, communiste et tout, mais où vraiment, c'est pas très intéressant à jouer manette en main, c'est vrai. C'est beaucoup d'énigmes miroirs et tout, mais bref. Chronos, lui en tout cas, où on joue du coup le Traveler, je crois que c'est la voyageuse ou un truc comme ça, qui voyage dans le temps pour essayer de résoudre, de contrôler plutôt une sorte d'épidémie. Un truc qui se passe avec des sortes de zombies, pareil, des sortes presque comme des nécromorphes de Dead Space. Le jeu, de toute façon, dans son développement, a été comparé à un mix entre Dead Space, Alien, et en même temps plus proche de Resident Evil que Silent Hill. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que la façon dont les monstres sont présentés, il y a un truc hyper inhumain, agrégé de chair, qui se déplace et tout, qui fait très Resident Evil. Ce truc-là, un peu de truc totalement dimorphe et tout. Et c'est vraiment, vraiment cool à jouer. Genre, les sensations avec le pistolet qu'on a sont super, l'ambiance est top, la musique pareil. Je trouve qu'elle a une vibe à la Returnal, mais en beaucoup plus lent. Et c'est un jeu où je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Le jeu a fait 500 000 ventes en 2 mois. Qui est raisonnable pour ce que
oui,
c'est
pour une nouvelle IP. Pour un studio double A un peu, oui.
Voilà. Mais visuellement, c'est très très beau. C'est l'Unreal Engine 5. C'est vraiment super. C'est vraiment super en termes de présentation. L'histoire est top aussi. C'est vraiment de l'horreur psychologique et tout. Mais ça n'oublie pas d'être un jeu vidéo. Tu sens que c'est vraiment, je pense, inspiré plus de Resident Evil, comme ils disent, de Silent Hill. Parce que si Silent Hill, c'est l'ambiance sur laquelle ils prennent grâce à la brume, les thématiques vraiment de santé mentale un peu et tout. Même de body horror, il y a un twist que je vais pas spoiler, qui est assez pas terrifiant, mais qui je pense est très dérangeant vis-à-vis du personnage principal, et malgré ça ils se disent, faut quand même que ça se joue en mode TPS, un petit peu dynamique, nerveux, où le personnage est lourd certes, mais par contre il y a du punch quoi, si tu tires avec une arme, tu sens le recul, tu sens que ça défouraille les ennemis. Donc là, il y a un DLC qui a été présenté, je crois. Mmh. Je sais plus si c'est au Xbox Game Showcase ou au Summer Game Fest.
Je crois que c'est Summer
Game Fest. Ouais. Du coup, voilà, il y a un DLC qui va venir sur un des personnages qui apparaît dans le jeu. Et j'ai hâte de le faire. Et je vous recommande, du coup, de faire le jeu de base. Parce que c'est, en termes de nouvelle IP, c'est un jeu qui peut que promettre de belles suites. Si vraiment ils arrivent le studio arrive à survivre, vu les temps, comme les temps sont durs, c'est là à survivre et à proposer quelque chose qui s'améliore encore et s'enrichit sur les bases de ce premier jeu, je pense qu'il n'y a que un monde où ça peut devenir une IP culte. Genre pour moi, c'est vraiment un jeu qui a genre ce potentiel-là. Ça a ce potentiel de parler à la table genre de jeux comme Alan Wake ou Silent Hill, où se dire, OK, c'est une IP qui peut être respectée. Si elle a le temps de se développer.
On leur souhaite en tout cas, parce que là, Bloober Team travaille beaucoup. On sait que là, voilà, il y a un an, ils ont sorti Silent Hill F. Là, ils travaillent sur Silent Hill Townfall.
Il n'y a pas aussi le remake de Silent Hill 1 ?
Si, bah, là, il n'est pas annoncé, mais c'est un secret pour personne. Enfin, okay. Il a été annoncé en mode de Konami, en mode le remake arrive, ah, il oui, existe. Et j'espère surtout un remake de Silent Hill 3 de la Bloober Team, si jamais, parce que là, logiquement, il faut faire le 1. Mais moi, j'ai fait Silent Hill 3 récemment, le OG. Et c'est incroyable, c'est vraiment c'est exceptionnel et je rêve d'un remake de Silent Hill 3 de Bloober Team. Ça c'est mon souhait s'il te plaît. C'est-à-dire premier épisode, j'ai call un âge d'or du survival. Est-ce que je peux call un remake de Silent Hill 3 de Bloober Team s'il te plaît les refs? Ça va, on arrive plutôt à bien à prédire l'avenir ici, j'ai l'impression. Ça va, on est toujours on arrive à pic à chaque fois. Donc voilà. Petit mot de la fin, je pense que voilà, mes derniers mots, c'est quoi? C'est que si on aime autant ce genre et si pourquoi on considère que le genre va bien, c'est que c'est un, comme tu l'as dit, c'est un genre qui n'oublie pas d'être un jeu vidéo, comme Chronos. C'est un jeu vidéo vraiment profondément, c'est des gens qui engagent avec les mécaniques, qui proposent toujours un level design intéressant et toujours être au contact du joueur à travers des thématiques horrifiques. Merci tout à tous ces jeux-là d'exister.
En fait, ce qui est très drôle, genre, c'est vraiment le mot de la fin, mais tu sais, on disait il y a 10-15 ans, c'était ce qui faisait freiner les éditeurs avec le Survival Horror, c'est qu'en effet, ça brasse pas d'argent. Tu vas pas faire de microtransactions, à part Dead Space 3. Mm. Dans ce genre-là, tu vas pas vraiment créer de système économique. C'est un jeu qui doit être simple, tu l'achètes, tu y joues, point. Et se dire qu'actuellement, je pense qu'il y a forcément une envie des joueurs. Je pense que pour moi, ça, il représente quand même l'espoir qu'on représente les joueurs, en fait. Genre, les joueurs ont envie de ce genre d'expérience, solo, polichée de A à Z. Tu achètes ton jeu, Chronos, il est à 40 balles, tu le lances, t'as ta galette, ça fonctionne, le jeu est sur disque. Et basta, en fait, t'as pas besoin de patch, genre de 10 000 patchs.
De campagne marketing agressive ou quoi.
Et tu prends tous les jeux d'ordre qu'on a cités, genre, à part, je crois, Alan Wake 2, peut-être qu'il n'y a pas une édition physique complète. Quoique, si. Si,
j'ai dit des bêtises entre temps. Oui.
Donc en fait, si, Silent Hill F2, Chronos, Alan Wake 2, RE9, tous ces jeux-là ont une édition sur disque complète. Et je pense qu'il y a, je dis pas que c'est lié, mais juste qu'il y a un truc de, ça montre à quel point c'est des jeux qui testent, genre dans leur production en fait, sont des produits finis avec une ligne claire.
C'est assez révélateur de la bonne santé du genre.
C'est ça. Et du coup, je pense que voilà, genre, pour ce qui est de Swill et moi, dans une industrie qui quand même est très.
Hostile,
ouais, vis-à-vis du joueur. Ça fait juste du bien, en fait, d'avoir un horizon où on se dit, ouais, ce truc-là qui auparavant était peut-être un peu. C'était frileux, en fait, et ça l'est encore. De faire des gros jeux AAA d'horreur, c'est compliqué. Hein. Si on n'est pas Resident Evil ou autre, faut quand même faire gaffe. Mais de se dire que voilà, genre, c'est un joueur qui maintenant se porte bien et les joueurs les encouragent et les récompensent en les achetant, je me dis, c'est un beau signe. Et pour le mot de fin de même RNG pour cette saison 3, je me dis, autant faire venir sur une note un peu d'espoir et se dire que. Ouais, il y a plein de choses qui vont pas dans le jeu vidéo. Mais je pense pas que les joueurs sont finito. Je pense pas qu'il y a pas d'espoir auprès des joueurs et tout. Je rigole par rapport aux gens qui regardent les streams et pensent être des gamers parce que ça me fait un peu rire et je pense que le débat en France, il se pose pas. Mais juste, ouais, jouer à des jeux vidéo. RNG, ça a été créé pour ça. Et si on parle du Survival Horror deux fois en trois ans, c'est parce que c'est un jeu où il y a que de bons jeux, en fait. Genre, vraiment, on mange bien.
Ah ouais, on a le ventre rempli. Et voilà, du coup, pour la fin, RNG continue pour une saison 4. On se retrouve fin septembre, début octobre. Et en plus, septembre, qu'est-ce qui sort comme film? Il n'y a pas un film Resident Evil? Ah, peut-être qu'on en reparlera. Ah, peut-être qu'est-ce que j'utilise le premier épisode de la saison 4, who knows. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on revient pour une saison de plus sur Radio Campus Paris. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Spotify et Apple Podcast, RNG Radio Campus Paris. Pour ce qui est de la communication, voilà, c'est toujours les mots à la fin. Sur Instagram, mon Instagram perso, vous pouvez me retrouver à SOUHA4YL. Ulysse, t'as un Instagram ou...
Je crois que c'est Ulysse Stuff, donc c'est ULY2SESTUFF. Ça fait Ulysses Stuff.
Voilà. Et vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, où voilà, on pose des clips, voilà, des petits
des extraits
par-ci, par-là. Suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur les réseaux pour être à l'affût des derniers épisodes, ce genre de choses. Ou sur le site de Radio Campus Paris. Merci encore Ulysse.
Et merci à toi, Swill.
Voilà, on se retrouve très bientôt et jouez à des jeux. Voilà, bisous.
Bisous, ciao.